Instinct de troupeau. Partout où nous rencontrons une morale, nous rencontrons une évaluation et un classement des actions et des instincts humains. Ces évaluations et ces classements sont toujours l'expression des besoins d'une communauté ou d'un troupeau. Ce qui, en premier lieu, est utile au troupeau, et aussi en deuxième et en troisième lieu, est aussi la mesure supérieure pour la valeur de tous les individus. Par la morale, l'individu est instruit à être fonction du troupeau et à ne s'attribuer de la valeur qu'en tant que fonction. Les conditions pour le maintien d'une communauté ayant été très différentes de ces conditions dans une autre communauté, il s'ensuivit qu'il y eut des morales très différentes. Et en regard des transformations importantes des troupeaux et des communautés, des États et des sociétés que l'on peut prévoir, on peut prophétiser qu'il y aura encore des morales très divergentes. La moralité, c'est l'instinct du troupeau chez l'individu. Remords de troupeau. Dans les temps les plus reculés de l'humanité, et pendant la période la plus longue, il y eut un remords bien différent de celui de nos jours. Aujourd'hui, l'on ne se sent responsable que de ce que l'on veut et de ce que l'on fait. Et la fierté ne vient que de ce que l'on a en soi. Tous nos juristes parlent de ce sentiment de dignité et de plaisir propre à l'individu, comme si, de tout temps, la source du droit en avait jailli. Mais pendant la période la plus longue de l'humanité, il n'y eut rien de plus terrible que de se sentir isolé. Être seul, sentir d'une façon isolée, ni obéir, ni dominer, signifiait un individu. Ce n'était point alors un plaisir, mais une punition. On était condamné à être individu. La liberté de penser était regardée comme le déplaisir par excellence. Tandis que nous ressentons la loi et l'ordonnance comme une contrainte et un dommage. On considérait autrefois l'égoïsme comme une chose pénible, comme un véritable mal. Être soi-même, s'évaluer soi-même d'après ses propres mesures et ses propres poids, cela passait alors pour inconvenant. Un penchant que l'on aurait manifesté dans ce sens aurait passé pour de la folie. Car toute misère et toute crainte étaient liées à la solitude. Alors le libre arbitre était voisin de la mauvaise conscience. Et plus l'on agissait d'une façon dépendante, plus l'instinct de troupeau, et non le sens personnel, ressortait de l'action. Plus on se considérait comme moral. Tout ce qui nuisait au troupeau, que l'individu l'eût voulu ou non, lui causait alors des remords. Et non seulement à lui, mais encore à son voisin, ou même à tout le troupeau. C'est en cela que nous avons le plus changé notre façon de penser. Bienveillance. Cela est-il vertueux qu'une cellule se transforme jusqu'à remplacer ses fonctions par celles d'une cellule plus forte? Il faut qu'elle le fasse. Et est-ce mal quand la cellule plus forte s'assimile à la cellule plus faible? Il faut également qu'elle le fasse. Cela lui est donc nécessaire, car elle aspire à un dédommagement abondant et elle veut se régénérer. On aura donc à distinguer dans la bienveillance l'instinct d'assimilation et l'instinct de soumission, selon que le plus fort ou le plus faible marque de la bienveillance. Le plaisir et le désir d'accaparer se réunissent chez le plus fort qui veut transformer quelque chose en une de ses fonctions. Le plaisir et le désir d'être accaparé chez le plus faible qui aimerait devenir fonction. La pitié est essentiellement la première chose, une émotion agréable de l'instinct d'assimilation à l'aspect du plus faible. Il faut d'ailleurs songer que fort et faible sont des concepts relatifs. Pas d'altruisme. Je remarque chez beaucoup d'êtres un excédent de force et un plaisir à vouloir être fonction. Ils ont le flair le plus subtil pour les positions où c'est précisément eux qui peuvent être fonction et ils s'empressent de les occuper. Certaines femmes font partie de ces êtres. Ce sont celles qui s'identifient avec la fonction d'un homme, une fonction mal développée, et qui deviennent ainsi sa politique, sa bourse ou sa sociabilité. De pareils êtres se conservent le mieux lorsqu'ils s'implantent dans un organisme étranger. Si cela ne leur réussit pas, ils s'irritent, s'aigrissent et finissent par se dévorer eux-mêmes. Santé de l'âme. La célèbre formule de médecine morale, dont Ariston de Chios est l'auteur, « La vertu est la santé de l'âme », devrait, pour que l'on puisse l'utiliser, être du moins transformé ainsi. Ta vertu est la santé de ton âme. Car en soi, il n'y a point de santé. Et toutes les tentatives pour donner ce nom à une chose ont misérablement avorté. Il importe de connaître ton but, ton horizon, tes forces, tes impulsions, tes erreurs, et surtout l'idéal et les fantômes de ton âme pour déterminer ce que signifie la santé, même pour ton corps. Il existe donc d'innombrables santé du corps. Et plus on permettra à un individu particulier et incomparable de lever la tête, plus on désapprendra le dogme de l'égalité des hommes. Plus il faudra que nos médecins perdent la notion d'une santé normale, d'une diète normale, du cours normal de la maladie. Et alors seulement, il sera peut-être temps de réfléchir à la santé et à la maladie de l'âme, et de mettre la vertu particulière de chacun dans cette santé. Il est vrai que la santé de l'âme pourrait ressembler chez l'un, au contraire de la santé chez l'autre. Et finalement, la grande question demeurait ouverte. Savoir si nous pouvons nous passer de la maladie, même pour le développement de notre vertu, et si particulièrement notre soif de connaissance et de connaissance de soi n'a pas autant besoin de l'âme malade que de l'âme bien portante. En un mot, si la seule volonté de santé n'est pas un préjugé, une lâcheté, et peut-être un reste de la barbarie la plus subtile et de l'esprit rétrograde.